débute avec les grands titres de l'actualité de ce 17 juin. La mort de l'un des artisans de la réunification allemande. L'ancien chancelier allemand Helmut Kohl est décédé. Il avait 87 ans. À Londres, le bilan de l'incendie de la tour Grenfell s'alourdit. Il passe à 30 personnes décédées. Mais ce bilan reste ailleurs également provisoire. En France, l'affaire du petit Grégory qui est relancée avec deux mises en examen dans la famille du petit garçon. Et nous débutons donc ce journal avec la mort d'Helmut Kohl, l'ex-chancelier allemand. Il était resté en place 16 ans, grand artisan de la réunification allemande et de l'amitié franco-allemande. Il avait 87 ans. Reportage de Quentin Dickinson.
Peu d'Allemands de sa génération et de son milieu s'étaient à ce point engagés, sous le régime nazi et en pleine guerre, en faveur d'une Europe unie, pacifique et démocratique. Natif du Palatinat, il restera sa vie durant l'homme d'un terroir et d'une ville, Ludwigshafen, capitale allemande de l'industrie chimique. Les Français, il les connaissait bien, puisque ce sont les forces françaises qui étaient puissance d'occupation après 1945 dans son coin d'Allemagne et qui ont constitué l'état de Rhénanie-Palatinat, dont il sera plus tard le ministre-président. Car, pour Helmut Kohl, la construction européenne était la mission et l'entente franco-allemande en était le moyen. Chancelier de la réunification des deux Allemagnes, il aura ouvert l'Union européenne à l'ancienne zone d'influence germanique en Europe centrale. Il était arrivé à la chancellerie fédérale alors que l'Europe connaissait, depuis le début des années 1970, une période encalminée sans relief ni vision. Sa complicité de raison avec son homologue français François Mitterrand devait permettre l'ambitieux redémarrage du projet européen confié à Jacques Delors, placé par eux à la tête de la Commission européenne.
C'était donc Quentin Dickinson. Écoutons également cette analyse d'Anastasia Becchio.
Oui, un très grand personnage qui a marqué son pays et l'Europe tout entière. Helmut Kohl est resté chancelier, vous l'avez dit, durant 16 ans jusqu'en 1998. Et pendant cette période, l'Allemagne s'est réunifiée. Après la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, Helmut Kohl a su forcer la main des dirigeants soviétiques et américains, Mikhail Gorbatchev et George Bush, pour que la RDA communiste rejoigne la République fédérale d'Allemagne en 1990. À propos de cet événement, il avait dit qu'il avait alors endossé le manteau de l'histoire. Avec le président français François Mitterrand, Kohl a perpétué et a scellé la tradition de la coopération franco-allemande. Une photo symbolise cette relation forte entre les deux hommes. On les voit main dans la main devant les tombes de Verdun. Le chancelier chrétien-démocrate était un Européen convaincu. Il a été l'un des artisans majeurs de l'Union économique et monétaire. Un bémol dans cette longue carrière, à la fin des années 90, avec l'affaire des caisses noires de la CDU, à la tête du parti chrétien-démocrate, il avait reçu des dons de plusieurs millions d'euros de la part de personnes très fortunées, ce qui viole la loi sur le financement des formations politiques. Son ancienne protégée, Angela Merkel, finira par le lâcher après cet épisode et jusqu'à la fin, leurs relations seront restées assez mauvaises.
C'était Anastasia Becchio pour RFI. On écoute d'ailleurs bien quelques réactions. Tout d'abord, celle de l'actuelle dirigeante allemande, Angela Merkel.
This image of this man who was great in every sense of the word, his achievement, his role as a statesman in Germany at its historical moment, these are all things that are with us now, but it's going to take a while until we can truly assess what we have lost in his passing. Helmut Kohl was an important German and an important European.
Voilà les propos traduits d'Angela Merkel. Écoutons également Jean-Marc Ayrault, l'ancien ministre des Affaires étrangères française.
C'est une grande figure européenne qui disparaît et je tiens à lui rendre hommage. C'est un homme qui a d'abord donné toute sa vie à la politique. Hein. Dès 1946, il s'engage, donc c'est dans une période très très difficile pour l'Allemagne, mais dans le courant chrétien-démocrate, mais qui fera une brillante carrière d'homme d'État puisqu'il a été longtemps chancelier et il aura été le chancelier de la réunification. Et aussi... C'est l'engagement européen pour ce Rhénan qui est profondément ancré dans ses conceptions politiques. Et puis l'amitié franco-allemande, la relation franco-allemande. Tout le monde se souvient de cette image de François Mitterrand et Helmut Kohl de se tenant la main au moment de l'anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Donc c'est tout un symbole. Et ces hommes étaient différents politiquement, mais en même temps ils avaient un idéal européen qu'ils partageaient.
Voilà donc Jean-Marc Ayrault, l'ancien ministre des Affaires étrangères français. 13h06, direction Londres maintenant. Le bilan de l'incendie de la tour Grenfell il y a quelques jours, eh bien, c'est encore alourdi. Il fait état de 30 morts et 78 blessés. Le nombre de victimes pourrait être encore augmenté dans les prochains jours, comme nous l'explique Christophe Paget.
600 personnes étaient logées dans cette tour de 24 étages et on ignore qui était présent la nuit de l'incendie. Selon la presse britannique, plus de 70 personnes seraient portées disparues. Le tabloïd The Sun donnait ce matin les noms de 65 d'entre elles. Des familles entières n'ont toujours pas donné signe de vie. Des dizaines d'avis de recherche ont été placardés sur les murs de l'église locale. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a envoyé aujourd'hui une lettre à la première ministre demandant que les familles des disparus soient davantage informées et affirmant que l'aide aux victimes était insuffisante. En se rendant sur place, Sadiq Khan, comme d'autres politiques, avait été prise à partie à ce sujet par des familles de victimes, jusqu'à la reine, qui s'est rendue ce vendredi dans un centre de secours et a rencontré des survivants, des volontaires et des pompiers. Des pompiers qui ont continué aujourd'hui à explorer les décombres de l'immeuble avec des chiens renifleurs et des drones, mais en partie seulement, les étages supérieurs doivent d'abord être sécurisés. L'identification des corps pourrait prendre des semaines, voire des mois. La première ministre Theresa May a promis que les rescapés seraient relogés dans Londres aussi vite que possible. Son gouvernement a annoncé le déblocage du fonds d'urgence pour les catastrophes et hier, près de 3 millions d'euros de dons ont été récoltés.
Et c'était Christophe Paget à Londres, donc pour RFI. Alors vous l'avez entendu, eh bien le bilan n'est que provisoire et les résidents commencent à s'impatienter. On écoute d'ailleurs l'une d'entre elles.
People want to know the truth. It's not 30 people that have died, it's over 100. And why are they sugarcoating the numbers? People want to know the truth. And it needs to stop being sugarcoated in the media because it's not 30 people that have died.
Voilà, donc une des résidentes donc de ce quartier. Écoutons également eh bien, la première ministre britannique, Theresa May.
It's absolutely horrifying. And I've been hearing stories today from people about their experiences. I've also been hearing from the local community about the issues and concerns that they have. Now, the government is making £5 million available for those emergency funds for people who need just to get money to be able to buy the normal things of everyday life.
Voilà, donc la première ministre britannique, Theresa May. 13h08 en Australie. Maintenant, le gouvernement a annoncé hier eh bien, une amnistie sur les armes pour 3 mois. Cela veut dire concrètement eh bien, que le gouvernement veut encourager la population à retourner les armes sans risque d'avoir des ennuis avec la police. Et ce chiffre, en Nouvelle-Galles du Sud, selon la police, il y aurait 1 million d'armes enregistrées auprès de leurs services. On écoute le député vert de Nouvelle-Galles du Sud, David Shorebridge.
What we see with the increasing pool of registered firearms is an increasing pool of private arsenals, which we know are honeypots for criminals who want to target this growing pool of registered weapons to steal weapons and put them into the black market.
Voilà donc David Shorebridge, député vert de Nouvelle-Galles du Sud. À noter que cette amnistie eh bien, est la première en place en Australie depuis le massacre de Port Arthur. Et c'était en 1996. 13h09, direction la France. Coup de théâtre dans l'affaire Grégory. Ce petit garçon retrouvé mort, ligoté, noyé dans une rivière, la rivière Vologne. Eh bien, 30 ans après les faits, sa grand-tante et son grand-oncle ont été mis en examen hier. Comme nous l'explique Marine de la Moissonnière.
Stupeur et incompréhension, les quelques habitants avec qui j'ai pu parler disent que le couple Jacob, eh bien, ce sont des gens simples, bien élevés, sans histoire. Alors bien sûr, l'affaire Grégory dans le village, tout le monde la connaît, ou presque, c'était il y a plus de 32 ans, mais elle a ressurgi régulièrement au gré des tentatives de la justice et des parents du petit Grégory, déterminés à faire toute la lumière sur ce drame. Mais enfin, si Marcel et Jacqueline Jacob, le grand-oncle, et la grand-tante de Grégory étaient les coupables. Ça se saurait depuis tout ce temps, me disait un ami de la famille qui a tenu à rester anonyme. On le saurait, renchérissait deux autres membres de ce petit groupe proche des Villemain. Pour René, le frère de Marcel Jacob, c'est impossible que son frère soit impliqué. Il est tout simplement incapable de faire du mal à quelqu'un. Il a peur de tout. Voilà ce qu'il m'a expliqué ce soir. Il souhaite évidemment que le vrai coupable soit trouvé. Un sentiment partagé par les habitants d'Aumont-Zé, pour la famille d'abord, mais aussi pour le village. Il est temps que les journalistes partent et que le calme revienne, me confiait une habitante.
Voilà, c'était donc Marine de La Moissonnière pour RFI. À 13h11, un mot de sport pour conclure ce journal et du football australien de l'AFL et la victoire de Saint-Kilda contre North Melbourne hier soir 89-72. C'est passé près donc pour Saint-Kilda alors qu'il menait largement à la mi-temps. On écoute l'entraîneur de Saint-Kilda, Alan Richardson.
I was concerned that the inaccuracy was was going to end up costing us, and whilst it, you know, it probably cost a bigger margin with respect to the victory, I was really pleased.
Voilà donc l'entraîneur de Saint-Kilda, Alan Richardson. Coup d'œil météo pour ce samedi à travers le pays. À Perth, il fera 22 degrés. Adelaide, 18. Melbourne, 16 degrés. Hobart, 17. Canberra, 14. Sydney, 19. Brisbane, 23. Cairns, 27. Et la température qui dégoûte toujours tout le monde. Il fait très beau à Darwin et 31 degrés. Rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, la mort de l'un des artisans de la réunification allemande. L'ancien chancelier allemand Helmut Kohl est décédé, il avait 87 ans. À Londres, le bilan de l'incendie de la tour Grenfell s'est alourdi, il passe à 30 personnes décédées. Et en France, on vient de l'entendre, l'affaire du petit Grégory qui refait surface.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench